9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Cette histoire nous amène dans le terrible 14e siècle, au tout début de la guerre de Cent Ans. Je dis bien au tout début, les combats n'ont même pas encore véritablement commencé. Le duc de Bretagne, il s'appelle Jean III, le duc de Bretagne, est en train de traverser le duché de Normandie en direction de ses terres. Il est à Caen, à peu près à hauteur de Caen. Il est en train de rentrer de Flandre, où il a accompagné le roi de France, Philippe VI, le fondateur de la dynastie des Valois, qui a signé une trêve de 2 ans avec le roi Édouard III d'Angleterre. Et sur le chemin qui ramène le duc en Bretagne, eh bien, Jean III se sent de moins en moins bien. Il a des maux de tête, le coup est pris, la fièvre s'empare de lui. Bref, il ne peut pas continuer sa route et il décide de s'arrêter quelques jours à Caen, le temps nécessaire à son rétablissement. Il a 55 ans à l'époque, Jean III, et jamais encore il n'a connu de problème de santé. Et pourtant, le lendemain, 30 avril 1341, il s'endort pour ne pas se réveiller. Le duc de Bretagne est mort, c'est un coup de tonnerre pour l'ensemble de la région et notamment pour le royaume de France parce que Jean III n'a pas d'héritier. Après 30 ans de règne, malgré 3 mariages, il n'a pas eu d'enfant. Alors, on pense qu'il a eu un fils, mais c'était avec une de ses maîtresses et de toute façon, ce fils ne pourrait en rien prétendre au titre de duc. Dans le cas où l'on déciderait de suivre les règles de succession du duché de Bretagne, le prétendant serait donc une prétendante. C'est Jeanne de Penthièvre qui est la fille aînée d'un frère de Jean III qui n'est plus de ce monde. En Bretagne, à l'inverse du royaume de France, les femmes peuvent prétendre au titre, donc pourquoi pas avoir une duchesse de Bretagne. Seulement, dans cette succession, il y a une autre personne qui aimerait devenir duc, c'est Jean de Montfort. Et Jean de Montfort, c'est le dernier frère de Jean III. La rivalité entre ces deux prétendants, entre Jeanne de Penthièvre et Jean de Montfort, va ouvrir ce qu'on appelle la guerre de succession de Bretagne. Lutte terrible pour prendre la possession du duché. Il faut vous dire que Jeanne de Penthièvre est mariée à Charles de Blois et que Charles de Blois, c'est le neveu du roi de France, Philippe VI, qui bien sûr va bénéficier du soutien du roi de France. Alors que de son côté, Jean de Montfort se rend à Londres pour obtenir l'appui du roi d'Angleterre. Et oui, voilà tout le problème de cette guerre de succession de Bretagne, c'est qu'elle va bientôt devenir un terrain d'affrontement entre la France et l'Angleterre.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Quand le roi de France apprend le voyage de Montfort en Angleterre, il est fou de colère, dans ses débuts de conflit. On ne sait pas encore que le conflit entre la France et l'Angleterre va durer 100 ans, bien entendu, mais l'Angleterre revendique, en tout cas le roi Édouard revendique pour lui la couronne de France. Vous imaginez bien que l'accession de Montfort au duché de Bretagne, ça signerait le basculement de tout ce duché, de toute cette péninsule, dans le domaine de l'Angleterre, dans l'escarcelle anglaise. Et il n'en est pas question, bien sûr, pour le roi de France, qui convoque Montfort à Paris. En parallèle, il reconnaît Charles de Blois et donc Jeanne de Penthièvre comme les prétendants légitimes et bien sûr que la France désormais en tient purement et simplement pour Jeanne. Dans son ouvrage sur la guerre de Cent Ans, Jean Favier, je cite toujours Jean Favier avec l'émotion que suscitent tous les souvenirs que je peux avoir, Jean Favier écrit « Sans craindre le paradoxe, le roi de France, qui devait son trône au principe nouveau de l'incapacité des femmes à gouverner, se fit le champion de sa nouvelle nièce. » C'est vrai que pour le roi de France, pour Philippe VI, il vaut mieux que les femmes ne puissent pas gouverner, parce que sinon, évidemment, c'est le roi Édouard qui a toute prétention à gouverner, à régner sur la France. Et que dire donc de la Bretagne ? Jean de Montfort se présente devant le roi et sa cour réunie dans la grande chambre du palais du Louvre. Vous imaginez ce que c'était que la tour du Louvre à l'époque, hein, on est au XIVe siècle et en face de lui, il n'a que des visages hostiles. On lui demande de justifier le voyage qu'il vient d'accomplir outre-Manche. Montfort précise qu'il s'est rendu auprès du roi d'Angleterre parce qu'il est son vassal, au nom d'un certain nombre de terres qu'il possède en Angleterre, donc il devait plier le genou. C'est pas une défense très convaincante. Hein. On lui demande de rester à Paris le temps de recevoir le verdict, seulement Montfort comprend qu'il vaut mieux pour lui de pas trop s'attarder. Je cite encore Jean Favier. Le prétendant à la Bretagne comprit qu'il allait être débouté et qu'il avait les plus grandes chances de finir ses jours en prison. Il fit savoir qu'il était malade, nul ne s'étonna de ne pas le voir pendant quelques jours. Au vrai, il quittait Paris le soir même de sa comparution, avec un ou deux fidèles et sous le déguisement d'un serviteur. Montfort file donc en Bretagne, il entre définitivement en rébellion contre le roi de France, et à ce moment-là, la rivalité des clans va se transporter dans le domaine des armes. Dans un premier temps, le parti français est le plus fort. Jean de Montfort va même être fait prisonnier. Seulement l'année suivante, en 1342, c'est le débarquement d'Édouard III en Bretagne avec 20 000 soldats. Édouard III parvient à conquérir Rennes, Nantes et Vannes. Et pour faire face, le roi de France se place à la tête d'une armée encore plus nombreuse. Voilà donc Philippe VI parti pour l'Ouest. Décembre 1342, bataille décisive en présence des deux rois. On sait que cette bataille, elle va avoir lieu là. Alors évidemment, le pape propose ses bons offices, hein, c'est toujours le cas. C'est Clément VI, en l'occurrence, qui vient d'envoyer depuis Avignon deux légats pontificaux. Une trêve de 3 ans est acceptée par les deux monarques qui donc chacun retourne dans sa capitale, l'un à Londres et l'autre à Paris. Et cependant, le roi d'Angleterre ne va pas respecter la trêve, vous le savez. En 1345, le voilà qui débarque des troupes très nombreuses à Brest. Il va pouvoir s'emparer de toute la partie sud de la Bretagne. Et 2 ans plus tard, en 1947, on signe une nouvelle trêve. La Bretagne se trouve entièrement coupée en deux maintenant, ce qui veut dire que tout le sud est anglais, en gros, et tout le nord et français. C'est une situation qui va rester bloquée pendant quelques temps, pendant quelques années, pendant la grande chevauchée normande du roi d'Angleterre. Et puis, au bout des 5 ans, il y a un événement absolument inattendu qui va tout faire basculer. David Robertson, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, donnait cette rhapsodie bretonne de Camille Saint-Saëns.
Vous écoutez Radio Classique.
Nous sommes maintenant là en 1351, ce qui veut dire que ça fait 10 ans que le duc de Bretagne est mort, Jean III de Bretagne, et que cette succession est très difficile. Personne n'a réussi à s'imposer pendant ces 10 ans. Les différents protagonistes de la guerre de succession sont coincés, puisque Charles de Blois, qui est proche du roi de France, s'est fait arrêter par les troupes anglaises et qu'on l'a transféré à la Tour de Londres. Ça sent pas très bon pour lui. Quant à Jean de Montfort, qui est proche du roi d'Angleterre, bien sûr, il repose 6 pieds sous terre après avoir été emporté par la maladie. C'est sa femme et son fils unique qui est âgé de 3 ans, qui sont allés s'installer à la cour de Londres. Ce qui veut dire que les deux prétendants au titre de duc de Bretagne sont tous les deux outre-Manche, comme nous le fait remarquer Jean-Baptiste Galen qui nous a concocté cette émission. L'un est en prison et l'autre est à la cour du roi. Et la Bretagne est toujours divisée en deux, donc au sud les partisans des Anglais, au nord les partisans des Français. Il y a une trêve officiellement, seulement les années passent et disons-le, cette trêve est de moins en moins respectée. Philippe Toureau a écrit un ouvrage sur l'histoire de la Bretagne, il nous dit « Même quand il n'y a pas d'hostilité ouverte entre les deux pays, que la paix semble régner, il y a toujours les ravages des troupes étrangères demeurées en Armorique dans l'attente de nouveaux combats. La soldatesque dévaste les champs des paysans et se regroupe en compagnie de routiers d'une centaine d'hommes qui se livrent impunément au brigandage. Les occupants exigent souvent des versements de rançons importantes pour ne pas voler, violer ou faire périr leurs victimes. Dans ces conditions, la disette et la famine sévissent durement, ainsi que la peste noire qui apparaît en Europe en 1348 et qui élimine plus du tiers de la population. » Ah oui, je vous ai dit, on est dans le terrible XIVe siècle. Rien n'a été épargné au personnes, à nos ancêtres de l'époque. 1348, la peste noire. La Bretagne, et dans toutes les années qui suivent, bien sûr. La Bretagne est donc dans une position vraiment critique. Il n'y a pas d'unité politique, ce qui veut dire que c'est partout le désordre et que ça favorise les bandes de pilleurs. Les premiers à souffrir de cette situation, ce sont les Bretons eux-mêmes, bien sûr. À la fin du mois de février 1351, un certain nombre de soldats anglais basés à Ploermel vont se rendre à Josselin. Josselin est une place ennemie et ils vont brutaliser tous les paysans qui sont autour. Et évidemment, les paysans en question, ils vont se plaindre au baron Jean de Beaumanoir, qui est capitaine de la garnison de Josselin, qui est partisan de Charles de Blois. Il s'agit d'essayer de trouver un moyen de dédommager tous ceux qui ont été molestés par les Anglais. Beaumanoir est vraiment très en colère quand il apprend que les Anglais ne respectent ni la Semaine Sainte, ni l'ensemble des engagements qu'ils ont pu prendre dans le passé. Le lendemain, il se rend auprès de la garnison de Ploermel afin de s'expliquer avec le chef anglais qui s'appelle Robert Benborough. Les soldats anglais voient de loin ce chevalier qui approche de leur garnison. On ouvre les portes, Beaumanoir se présente devant le gouverneur anglais et voilà les propos qu'il aurait tenus au gouverneur. « Chevalier d'Angleterre, vous vous rendez bien coupable de tourmenter les pauvres habitants, ceux qui sèment le blé et qui nous procurent en abondance le vin et les bestiaux. S'il n'y avait pas de laboureurs, je vous dis ma pensée, ce serait aux nobles à défricher et à cultiver la terre en leur place, à battre le blé, à endurer la pauvreté, et ce serait grande peine pour ceux qui n'y sont point accoutumés. Non, le brave n'attaque pas l'homme sans défense. Laisse en repos le laboureur. Venge-toi dignement sur le combattant. Je te propose que 30 de tes vaillants chevaliers rencontrent 30 des miens. » La voilà, la proposition. Le voilà l'événement dont je vous disais qu'il allait tout faire basculer. « Je te propose que 30 de tes vaillants chevaliers rencontrent 30 des miens. » Ce que propose Beaumanoir à Benborough, c'est ce qu'on appelle un duel d'honneur. Alors, un duel, normalement, comme son nom l'indique, ce sont deux combattants. Eh bien là, ce ne sont pas deux combattants, ce sont deux groupes de combattants, 30 contre 30. Or, incroyable mais vrai, le chevalier anglais accepte l'épreuve. Robert Benborough est réputé être un des meilleurs chevaliers de son temps. Le défi que lui a posé Beaumanoir, le cartel qu'il vient d'une certaine façon de lui jeter au visage, ne lui fait pas peur et l'on fixe le combat à la semaine suivante, c'est-à-dire le 26 mars 1351. C'est la veille du quatrième dimanche de Carême. 26 mars 1351. Alors évidemment, il va falloir les choisir, hein, ces 30 combattants de part et d'autre. On va respecter le code d'honneur de la chevalerie, bien sûr. Le camp qui comptera le moins de morts et de blessés aura gagné. C'est un combat pour l'honneur. Chacun espère bien que la victoire pourrait influencer la guerre de succession de Bretagne. On pourrait presque imaginer que du résultat du combat dépend, somme toute, le résultat de la confrontation historique et désormais ancienne entre France et Angleterre sur ce territoire breton. Le matin du 26 mars, Beaumanoir, Benborough et les 58 hommes qu'ils ont choisis sont là, ils sont prêts, la confrontation va pouvoir avoir lieu. Noce bretonne, c'est un extrait de la suite Karadec de Vincent d'Indy. L'orchestre symphonique de Malmö était sous la direction de Darrell Hang.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Eh bien ça y est, nous y sommes. C'est le grand jour entre Jocelyn et Pleurmel. Le duel, si l'on peut dire, la confrontation va pouvoir avoir lieu dans un lieu dit qui s'appelle Chêne de Mi-Voix. C'est très beau, Jocelyn. Je vous conseille évidemment d'aller visiter cette merveille, un des plus beaux châteaux, non seulement de Bretagne, mais de France. Et toute cette région, d'une façon générale, est absolument somptueuse. Depuis plusieurs jours, les différents camps s'entraînent au combat. On s'est battu au corps à corps, bien sûr. Le choix des armes est libre. Tous les chevaliers, attention, devront être à pied, bien sûr. Jean Sévère, dans Le combat des Trente, nous dit « Les combattants suivront une minutieuse préparation religieuse, psychologique et militaire, car ce combat est assimilé à un jugement de Dieu. Avant le combat, les participants se confessèrent, assistèrent à la messe et communièrent, Beaumanoir alla même jusqu'à jeûner. Ce combat devait avoir lieu selon les codes de la chevalerie, donc avec une dimension religieuse. Les combattants vinrent sans doute à cheval de Jocelyn et de Pleurmel, mais les combats eurent lieu à pied, en champ clos, délimités par des épées et des lances fichées en terre, et dont ils ne doivent pas franchir les limites à peine de déshonneur. » Parmi les 30 soldats de Beaumanoir, tous sont bretons. Chez Bembro, c'est différent, on compte 20 Anglais, 6 Allemands et 4 Bretons seulement. Et au petit matin, tous ces hommes se retrouvent donc dans le champ clos. Il y a une foule considérable, toute la population est venue assister à ce spectacle dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est peu ordinaire. Et ce que la chevalerie bretonne compte de plus illustre va donc combattre les guerriers anglais. Bembro a dit à ses hommes, « Nous tuerons ou prendrons Beaumanoir et tous ses compagnons. Nous amènerons ceux qui seront vivants à notre gentil roi Édouard qui les traitera à son plaisir, la Bretagne et bientôt toute la France lui appartiendront. » Bon, les deux troupes se font face, attendant le signal déclarant les hostilités ouvertes. Certains ont des épées, d'autres des lances, ou bien des fauchons ou des maillets. Bref, tout le monde est prêt à en découdre. Ça faisait 10 ans que Jean III était mort, que le chaos régnait en Bretagne. Ce qui est un simple combat pour l'honneur pourrait bien devenir la bataille décisive pour la possession de la Bretagne. Et au signal, les hommes se ruent littéralement les uns sur les autres. C'est un immense fracas, cri de guerre, cri de douleur aussi. Il n'y a pas de pitié et dans les premiers moments du combat, les Anglais tout de suite s'imposent. Les premiers morts sont bretons, dans le camp de Beaumanoir donc. Et après 2 heures de combat, les deux parties vont accepter une pause. On se rafraîchit un peu, on va boire du vin d'Anjou, nous dit-on. On souffle. Et pendant cette pause, Bembro déclare que la victoire est proche. Selon lui, le camp français va reculer, il va se rendre. Il motive ses hommes, Bembro, bien entendu. Il est certain que tout ça va très vite tourner à son avantage.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et Beaumanoir, en effet, est en difficulté, affaibli, pris en étau par entre plusieurs chevaliers anglais, dont Robert Bembro en personne. Apercevant son chef en difficulté, Alain de Kerenray va saisir sa lance et frapper Bembro au visage. Et là, le chef anglais s'écroule, il ne se relèvera pas. Le combat tourne à l'avantage du camp français. Beaumanoir est blessé à son tour, il demande de l'eau. Lorsqu'un de ses hommes lui répond « Bois ton sang, Beaumanoir, ta soif passera ». Vous connaissez peut-être cette phrase, hein, elle est restée célèbre, évidemment. Ce sera d'ailleurs la devise de la famille Beaumanoir. « Bois ton sang, Beaumanoir, ta soif passera ». Dans l'après-midi, les Anglais sont affaiblis, vont former un dernier carré encerclé par les chevaliers français. Avant la tombée de la nuit, ils se rendent. Ils comptent dans leur rang bien plus de morts et de blessés que les Français. Il est difficile néanmoins de savoir exactement combien d'hommes restent à terre dans les deux camps. On n'a jamais pu s'entendre là-dessus. Ce qui est certain, c'est que le parti anglais va refuser d'admettre sa défaite et que, en fait, ce duel, si l'on peut dire, cette confrontation n'aura eu, somme toute, aucun effet sur la succession de Bretagne. La succession, la guerre de succession, elle ne prendra fin qu'en 1364, après la bataille d'Auray, qui verra les troupes anglaises l'emporter sur Charles de Blois, qui meurt pendant la bataille. Et l'année suivante, il y aura le traité de Guérande, qui est établira le fils de Jean de Montfort à la tête du duché de Bretagne. Ce sera le duc Jean IV. Le combat des Trente a donc marqué les mémoires, mais il n'a pas eu d'effet très important. Si l'effet qu'il a eu, c'est qu'il fait vibrer, encore aujourd'hui, tant de siècles plus tard, ce qu'il y a encore de chevaleresque en nous.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci au chevalier Jean-Baptiste Galen d'avoir préparé cette émission et merci au chevalier Christian Morin d'être avec nous. Oh, je dis chevalier, il est même plus que ça, il est duc de Radio Classique, figurez-vous.
Je ne le savais pas, mais écoutez, c'est un honneur.
Ben, je vous l'annonce.
Quand est-ce qu'aura lieu la cérémonie? L'intronisation.
On va organiser
ça. Je vais retirer mon armure quand même. Alors, finalement, la musique adoucissant les mœurs, après ces batailles avec les Anglais, eh bien, nous allons voguer et rester en Bretagne. Puisque aujourd'hui, c'est une journée spéciale sur Radio Classique des musicales de Quiberon.
Ça tombe bien. Hein.
Voilà, ça tombe bien. On pourra écouter de la musique, faire un peu de thalassothérapie et ça va être un régal. Je vais vous parler de ce programme tout au long de la matinée.
Il va être question de Louison Bobet à un moment ou à un autre.
Ah oui, oui. Oui, à Louison Bobet, ça vous parlez. Alors, vous évoquez des souvenirs d'enfance. Le maillot jaune de Louison Bobet et son frère Jean aussi, qui a mené la thalassothérapie à Biarritz, au Miramar, ensuite, un petit peu plus tard. Merci, bonne thalasso, si vous partez dans la journée
volontiers.
Pour faire un peu, quelque peu, reposer votre jolie voix cet après-midi. Le rendez-vous de Franck, ce sera... Alors là, je pose la question. Sous Louis XVI, il y a un homme radar qui existait.
Ah oui, oui, c'est une histoire absolument incroyable. Ça, je vous conseille cette émission. On avait beaucoup ri en la préparant.
14h, Franck Ferrand, et demain matin, évidemment, à 9h. Bonne journée à tous.